Je ne crois pas qu'il soit vrai que la religion est morale ou éthique. Est-il moral de croire que vos péchés, les vôtres et les miens, mesdames et messieurs, frères et sœurs, peuvent être pardonnés par la punition d'une autre personne? Est-il éthique de croire ça? Je soutiendrai que la doctrine de la rédemption vicaire par sacrifice humain est complètement immorale. Je pourrais faire ce que Sidney Carton fait dans un conte de ville, si vous voulez. Il est très improbable que je fasse ça, à moins que vous ayez été incroyablement gentil avec moi. Je prendrai votre place sur l'échafaud, mais je ne peux pas prendre vos responsabilités. Je ne peux pas pardonner ce que vous avez fait. Je ne peux pas vous rendre propre. C'est une doctrine positivement immorale qui abolit le concept de responsabilité dont dépendent toute éthique et toute moralité. Fin de citation, puisqu'il s'agissait d'une citation. Alors, de toutes les doctrines de la théologie chrétienne, la substitution vicaire, c'est-à-dire la substitution pénale, est sans doute peut-être celle qui suscite les réactions les plus vives, les plus virulentes. Parmi les chrétiens, certains chrétiens, mais surtout parmi les non-chrétiens, comme Christopher Hitchens, écrivain et journaliste anglo-américain que je viens de citer lors d'un débat qu'il a opposé à Alistair McGrath, dont je fais de la pub dans cette église depuis un certain temps, n'est-ce pas ? Mes amis, mais n'est-il pas en effet complètement immoral de croire que c'est sur la base du sacrifice d'une autre personne, parfaite, juste et innocente de surcroît, que vous pouvez être pardonné de vos péchés, lavé de tout péché? C'est scandaleux, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, j'ai le grand plaisir de vous annoncer, mes amis, que vous croyez en une doctrine complètement immorale. Alors que le christianisme est censé être une doctrine, une religion morale, non? Quel effet ça vous fait de croire en une doctrine complètement immorale? Et si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes peut-être en accord avec ce que pense Christopher Hitchens, que la substitution vicaire pénale est complètement immorale. Alors comment répondre à cette objection, qui est une objection très sérieuse, n'est-ce pas? Peut-être que c'est l'objection de vos amis, non chrétiens. Comment y répondre? Je vous propose trois éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que cette objection relève malheureusement d'une mauvaise compréhension de la substitution pénale, selon laquelle Jésus est devenu le suppléant, et j'ouvre une parenthèse pour dire que le mot vicaire vient du latin vicarius, qui veut dire suppléant. Donc cette objection relève malheureusement d'une mauvaise compréhension de la substitution pénale, selon laquelle Jésus est devenu le suppléant, le substitut des croyants, mais qui a volontairement accepté d'être condamné, crucifié à leur place, pour subir l'appel, le jugement qu'il méritait. Premier élément de réponse. Cette objection relève d'une mauvaise compréhension de la substitution vicaire au pénal. Deuxième élément de réponse. Le péché est certes un acte personnel qui ne peut être transféré en tant que tel. Il faut le reconnaître. Quand je pêche dans ma vie, quand vous péchez dans votre vie, si vous arrive de pécher, mais quand je pêche dans ma vie, c'est moi qui pêche. Et non Jésus, vous êtes d'accord avec moi. C'est moi qui pêche, et ce n'est pas Jésus qui n'a d'ailleurs jamais confessé le péché des croyants, et qui ne s'en est d'ailleurs jamais repenti, vous êtes d'accord avec moi. Jésus n'a jamais confessé le péché des croyants, et ne s'en est jamais repenti. C'est moi qui pêche en tant que tel. C'est vrai. Mais, cependant, néanmoins, toutefois, nonobstant, comme l'écrit Henri Blocher dans son livre « La doctrine du péché et de la rédemption », mais le péché a une autre dimension. Il n'y a pas l'acte nu seulement, mais un poids de culpabilité, une dette judiciaire. Et vous voyez, c'est précisément ce poids de culpabilité, cette dette que Jésus est venu porter pour nous. C'est de cette dette dont il s'est chargé. Jim Packer, un théologien Anglo-britannique, Francis, corrige-moi, hein, juste qu'il est né en Angleterre, Packer. Mais il est canadien, me dit-il. On va dire anglo-canadien. Voilà comment Jim Packer exprime la même idée en ces termes. Je cite Jim Packer, qui est encore en vie, hein, 92 ans. Quand Dieu justifie des pécheurs, il ne déclare pas que des gens mauvais sont bons. Ou il ne dit pas qu'ils ne sont pas pécheurs après tout. Il les déclare légalement justes, libres de toute responsabilité de la loi enfreinte, parce qu'il a lui-même porté dans son Fils la sanction de leur infraction. Fin de citation. C'était le deuxième élément de réponse. Troisième et dernier élément de réponse. Pour John Stott, que vous connaissez tous, dans La Croix du Christ, un livre que je vous conseille de lire, qui était traduit en français, 12 euros sur Amazon.fr. Ça vaut le coup, d'occasion. Dans John Stott, dans La Croix du Christ de John Stott, voilà ce qu'il écrit, et pour moi, c'est le coup de grâce à cette objection. Il n'y a rien d'immoral dans la substitution pénale. Car le substitut de ceux qui ont enfreint la loi n'est autre que celui qui a fait la loi. Il n'y a rien d'immoral dans la mesure où celui qui se substitue pour nous est celui qui a fait la loi. Et à ces trois éléments de réponse qu'on pourrait qualifier de théologiques, je pense que nous pourrions ajouter des éléments de réponse bibliques et trois passages bibliques pour vous encourager à penser que cette argumentation pour la substitution pénale est non seulement ancrée dans la théologie, mais aussi dans la Bible. Marc, chapitre 10, verset 45, Jésus, en parlant de lui-même, dit ceci, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour ayant là un sens substitutif à la place de beaucoup. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, l'un des passages les plus pertinents dans ce domaine. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui n'a pas connu le péché, en parlant de Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est devenu péché pour nous sans avoir jamais péché. Et c'est nos péchés qu'il portait sur la croix. Dernier passage, Galates chapitre 3, verset 13, toujours une lettre écrite par l'apôtre Paul. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En devenant malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous, pour que nous ne soyons pas maudits. Mais la doctrine de la substitution pénale n'est pas une invention du Nouveau Testament, puisque nous voulons de lire trois passages du Nouveau Testament. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prophétie d'Ésaïe, un livre écrit combien de temps avant Jésus? Question subsidiaire. 700 ans. Ésaïe est un prophète du 8e siècle. Et Ésaïe est un livre qui raconte l'histoire extraordinaire d'une transformation. Je vous brosse un rapide tableau de la situation. Au début du livre, Sion, qui est une personnification un peu du peuple d'Israël, de Jérusalem, est comparé, vous savez à quoi? À une prostituée sur le cours Charlemagne à Lyon. Vous avez déjà vu des prostituées? J'en vois parfois, quand avec Meg, on rentre pour prendre la sette, même sur le pont Pasteur. Ésaïe, chapitre 1, verset 21. Une prostituée en raison de son infidélité à Dieu. Le peuple de Dieu en trompait son Dieu avec d'autres dieux, ça relève de l'idolâtrie, de l'infidélité. Et à la fin du livre, notamment des chapitres 60 à 62, la même Sion, celle qui auparavant était une prostituée, est devenue une cité glorieuse, rayonnante, sainte, juste et aimée de Dieu. Et la question que je me pose et que vous vous posez peut-être, c'est comment? Que s'est-il passé entre-temps? Comment cette transformation a-t-elle eu lieu? Comment un Dieu saint, pur et parfait peut-il accepter en sa présence un peuple impur et imparfait? Le pardon a déjà été annoncé dans Ésaïe, mais sur quelle base le pardon va-t-il être accordé? Eh bien, c'est la réponse que donne Ésaïe 53 sur la base de l'œuvre d'un serviteur mystère. Mystère et boule de gomme. Sur la base de l'œuvre d'un serviteur mystère auquel sont consacrés quatre poèmes extraordinaires qu'on appelle en théologie les chants du serviteur, dont le plus beau se trouve en Ésaïe 53. En fait, tout commence en Ésaïe 52, verset 13, et ce jusqu'à la fin du chapitre 53. Et je vous propose de faire une série de 5 messages dans les semaines qui suivent sur les 5 strophes de ce chapitre extraordinaire. Un chapitre structuré en 5 strophes qui constitue, selon Barry Webb, célèbre commentateur australien, le joyau dans la couronne de la théologie d'Ésaïe. Ou selon un autre, le mont Everest de la prophétie. Je ne sais pas combien culmine le mont Everest, mais pour lui, c'est un peu le summum, le paroxysme de la beauté de la prophétie. Un chapitre dans lequel Dieu va annoncer que le pardon de son peuple, que votre pardon, si vous êtes chrétien, va être possible sur la base de l'œuvre, en fait, de son serviteur, qui va porter les péchés de son peuple. Et c'est l'idée centrale que j'aimerais marteler au moins 5 fois aujourd'hui, et beaucoup plus les prochaines fois. Il a porté nos péchés. Il a porté nos péchés. Prions. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyé. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le don de ta parole qui est sortie de ta bouche et nous prions qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pour quoi tu l'as envoyé. Réconforte ceux qui ont besoin d'être réconfortés, Seigneur. Encourage ceux qui ont besoin d'être encouragés. Relève ceux qui sont tombés. Fais-nous du bien par ta parole et ton esprit au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et j'aimerais voir simplement 3 choses, simplement avec vous cet après-midi. 3 choses qui sont dans vos programmes. Premièrement, nous allons voir que le serviteur dont il est question a été élevé. Dans un deuxième temps, nous verrons que ce serviteur a été défiguré. Dans un troisième et dernier temps, nous verrons que ce serviteur a été sacrifié. Regardez avec moi le verset 13 du chapitre 52. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Je ne sais pas ce que disent vos versions, il prospérera, il réussira. Certaines versions traduisent, il agira avec sagesse. C'est peut-être le cas de la version que vous lisez. En fait, quelle que soit la traduction adoptée de ce verset, comment comprendre cette prospérité dont il est question, cette réussite, cette action empreinte de sagesse, pour l'instant à ce stade du poème, mystère et boule de gomme. J'aime bien cette expression. Tout ce que nous savons, à la lumière de ce verset 13, c'est que ce serviteur est élevé au plus haut point. En fait, les 3 verbes décrivant son élévation sont employés pour décrire l'élévation de Dieu lui-même dans d'autres passages. 2 exemples, Ésaïe chapitre 5 verset 16, l'Éternel des armées est élevé par le droit. Et Ésaïe chapitre 57 verset 15, car ainsi parle le Très-Haut. Vous voyez comment là il s'agit d'une élévation suprême en tant que Dieu, puisque les verbes employés pour décrire l'élévation du serviteur sont employés pour décrire l'élévation de Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de l'élévation de n'importe qui. Vous me suivez? Et la question qui se pose, c'est comment ce serviteur a-t-il été élevé? Grâce à une stratégie politique? Grâce à une puissance militaire? Je ne sais pas. À quoi est due cette élévation? Eh bien, la Bible est bien faite. Regardez le verset suivant, le verset 14. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme, son apparence n'était plus celui des fils d'Adam. En fait, l'élévation du serviteur de l'Éternel a été précédée de quoi? De souffrances qui l'ont littéralement défiguré. Regardez encore le verset 14. Hein. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré. Le terme hébreu vient d'une racine signifiant corrompre ou bien abîmer. Et tant son apparence n'avait plus rien d'humain selon la Bible du Semeur, que je me permets de citer pour une fois que je suis d'accord avec la traduction. Alors avant d'être élevé, le serviteur a été défiguré. Mais pourquoi a-t-il été défiguré? Parce qu'il a croisé un pitbull enragé au coin de la rue? Je vois certaines personnes rigoler, mais figurez-vous que c'est ce qui est arrivé à un enfant en 2001. Un enfant de 19 mois qui a été attaqué par un pitbull et dont la lèvre a été arrachée jusqu'au menton. Enfant défiguré. Alors pourquoi ce serviteur a été défiguré? Parce qu'il s'est fait broyer de vraies dents par un faux dentiste? Là encore, je vois Faustine qui rigole. Mais figurez-vous que c'est ce qui est arrivé à une chinoise de 33 ans. qui a voulu se faire opérer pour enjoliver son sourire et qui s'est fait malheureusement trucider par un imposteur, un charlatan, et qui se sent aujourd'hui comme un monstre, la pauvre. Alors pourquoi ce serviteur a-t-il été défiguré? Eh bien mes amis, encore une fois, la Bible est bien faite, n'est-ce pas? Vous savez quoi? La réponse se trouve au verset suivant. Regardez le verset 15, je n'invente rien. De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui n'avait pas entendu. Un serviteur élevé, verset 13, un serviteur défiguré, verset 14, un serviteur sacrifié, verset 15. La défiguration du serviteur semble être la conséquence, regardez le début du verset 15, d'un acte d'aspersion d'eux-mêmes. Il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Littéralement, il aspergera beaucoup de nations. Un acte qui fait référence au système sacrificiel de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? À l'époque, voilà ce que le sacrificateur, on appelle ça des prêtres, médiateur entre Dieu et les hommes, devait faire pour que le peuple soit pardonné de ses péchés, dans la mesure où l'une des problématiques de la Bible, c'est comment est-ce qu'un peuple pécheur, impur et imparfait, peut être accepté dans la présence d'un Dieu saint, pur et parfait? Comment est-ce possible? Eh bien voilà comment c'était possible à l'époque. Lévitique chapitre 4, versets 5 et 6. Le sacrificateur ayant reçu l'onction consacrée pour cette tâche prendra du sang du taureau, donc un taureau était sacrifié, et le sacrificateur prend du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est un peu le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il trempera son doigt dans le sang, bon appétit, et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Ça fait sept, je sais pas. Mais voilà comment, à l'époque, le peuple de Dieu pouvait être en règle avec lui, grâce à un rite d'aspersion. Et la question que je vous pose, c'est quel est le point commun, selon vous, entre le serviteur tel qu'il est décrit au verset 15, d'accord? C'est du serviteur dont il s'agit, n'est-ce pas? Quel est le point commun entre le serviteur tel qu'il est décrit dans le verset 15 et le sacrificateur de l'Ancien Testament? Quel est le point commun? Ce sont tous les deux des sacrificateurs, vous êtes d'accord? Tous les deux accomplissent le même acte sacerdotal. Ils aspergent, vous êtes d'accord? Mais contrairement au sacrificateur de l'Ancien Testament, le serviteur dont il est question au verset 15 est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Le sacrificateur du verset 15 ne sacrifie pas une autre personne. Il ne sacrifie pas un animal, un bouc ou un taureau. Qu'est-ce qu'il sacrifie? Il se sacrifie lui-même. Il asperge son propre sang. Ce qui explique les souffrances qui l'ont défiguré. Et c'est précisément ce que confirmera Ésaïe. Regardez Ésaïe chapitre 53 verset 10, ce qu'il dit un peu plus loin. Le serviteur s'est livré en sacrifice de culpabilité, ce qui confirmerait notre hypothèse selon laquelle le serviteur de l'Éternel, non seulement le sacrificateur, mais le sacrifice, celui qui s'offre en sacrifice, le serviteur sera donc sacrifié. Ce qui suscitera la stupéfaction, la soumission des rois, regardez le verset 15, qui fermeront la bouche en assistant un renversement de situation quelque peu ironique. Est-ce que vous avez saisi l'ironie de ces versets? Rappelez-vous, le serviteur était un sujet d'horreur et d'effroi. Regardez le verset 14. Hein. De même que le serviteur a été pour beaucoup un sujet d'effroi, son aspect n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celui des fils d'Adam. En fait, certains avaient du mal à le regarder tant son apparence était défigurée. Celui qui était un sujet d'effroi et d'horreur, verset 14. Celui qui était considéré comme impur, on n'osait pas à peine le regarder. Mes amis, ce serviteur est précisément celui que tout le monde regarde maintenant. Et celui qui était considéré comme impur est celui qui purifie. Mais quelle ironie! Celui qui était impur est celui qui purifie maintenant, grâce, en vertu de son sacrifice. Voilà donc le mystère du verset 14. Vous vous rappelez ce mystère? Comment comprendre finalement la prospérité? Comment comprendre la réussite de ce serviteur? Pourquoi va-t-il prospérer, réussir ou agir avec sagesse? Je pense que nous avons là une réponse à cette question. Peut-être parce que la sagesse de Dieu manifestée au travers du sacrifice du serviteur, va confondre la sagesse des hommes qui vont rester bouche bée. En fait, non, qui vont plutôt fermer la bouche. Sagesse incarnée par les rois, les plus éminents représentants de la sagesse à l'époque, qui vont voir et comprendre peut-être que sans souffrance et sans sacrifice, il ne peut pas y avoir d'élévation, ou que pour le dire autrement, dans le terme néo-testamentaire, sans effusion de sang, sans aspersion, il ne peut pas y avoir de pardon. Vous comprenez? Peut-être que c'est là la sagesse de Dieu qui va être révélée dans l'esprit des hommes qui vont comprendre que sans aspersion, sans effusion de sang, sans sacrifice, il ne peut pas y avoir finalement de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Alors pour conclure, le premier message dans le cadre de cette série sur Ésaïe 53, qui est ce serviteur mystère? Mystère et boule de gomme. Mes réponses après un suspense insoutenable, un suspense digne d'un scénario d'Alfred Hitchcock. Ce serviteur, mes amis, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ qui a été giflé. Matthieu chapitre 27, verset 30, qui a été frappé sur la tête. Matthieu chapitre 27. Verset 30, le même verset. Qui a été battu à coups de fouet. Marc, chapitre 15, verset 15. Qui a pris la condition de serviteur. Et qui a été souverainement élevé. Philippiens, chapitre 2, verset 7 et 9. Qui est venu comme sacrificateur des biens à venir. Et qui est entré une bonne fois pour toutes dans le sanctuaire. Non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Qui a purifié notre conscience des œuvres mortes. Pour que nous servions le Dieu vivant. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Pour le dire en une seule phrase, Jésus qui a porté nos péchés. Alors je suis bien conscient qu'aucun exemple ne pourra jamais illustrer parfaitement ce que Jésus a fait. Mais l'histoire de notre monde nous offre parfois des événements qui peuvent nous aider à comprendre et à mesurer la grandeur du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Connaissez-vous l'histoire du frère franciscain Maximilien Kolb? Rassurez-vous, j'ai fait sa connaissance cette semaine, hein. Je ne le connaissais pas auparavant. Mais le 17 juillet 1941, ce frère franciscain est arrêté par la Gestapo, puis transféré dans le camp tristement célèbre d'Auschwitz. Au mois de juillet, quelques jours après son arrestation, un prisonnier disparaît dans le bloc 14, le bloc où est enfermé le frère Kolb. Il pense que quelqu'un s'est évadé. Les nazis vont alors sélectionner 10 hommes, pour les mettre en quarantaine. Et parmi ces hommes, il y a un père de famille qui supplie les nazis de ne pas l'amener, parce qu'il sait qu'il va être sacrifié. C'est alors que le frère Kolb se porte volontaire pour le remplacer. Les nazis se concertent et ils acceptent la substitution. Le frère Kolb est alors emmené avec 10 autres prisonniers dans un bunker souterrain où il sera finalement exécuté. Quelle histoire touchante, n'est-ce pas? Alors je suis vraiment conscient que cette illustration a ses limites. Mais c'est un peu ce que Jésus a fait, voyez, en acceptant de porter nos péchés et d'être crucifié à notre place. Et la question qui se pose, que je vous pose et que je me pose à moi-même, c'est quelle attitude adoptez-vous à l'égard de ce serviteur ce soir? Quelle attitude avez-vous adoptée à l'égard de ce serviteur cette semaine? Quelle attitude allez-vous adopter à son égard la semaine qui vient? Et je pense que les réponses en termes d'application sont encore une fois dans le texte. Regardez par exemple la deuxième partie du verset 15. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Je crois que la première application, c'est fermer notre bouche, quoi. Alors vous allez peut-être trouver cette application brute de décoffrage, mais encore une fois, je ne fais que reprendre l'expression du verset 15. Devant lui, des rois fermeront la bouche. un acte de stupéfaction, mais aussi de soumission que l'apôtre Paul reprendra dans le texte que nous avons lu en introduction de ce culte. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, 19 à 20. Alors, quelle est votre attitude devant Dieu ce soir ? Maintenant, dans votre cœur, est-ce que vous êtes parfois tenté, comme moi, d'ouvrir votre bouche pour vous défendre devant Dieu ? Je suis né dans une famille chrétienne. Ne suis-je pas plus juste que les autres ? Je ne suis pas coupable, voyons. Est-ce que vous êtes parfois tenté de vous justifier devant Dieu ? Je suis quelqu'un de bien, je n'ai jamais fait de mal à personne. Est-ce que vous êtes parfois tenté d'avancer même des objections contre Dieu ? Voyons, mais comment croire un Dieu qui fait ci et qui ne fait pas cela, qui ne répond jamais à mes prières? Et puis quoi encore? Mes amis, ouvrons-nous notre bouche devant Dieu ou fermons-nous notre bouche? Acceptons-nous de plaider coupable dans le box des accusés et de reconnaître humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons désespérément besoin d'un sauveur? Première application, fermer notre bouche. Deuxième application, encore une fois, tiré du texte, regardez la dernière partie du verset 15. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Deuxième application, dernière application, voir. Voir et comprendre. Voir Jésus-Christ. Jésus-Christ, le serviteur défiguré, sacrifié et élevé pour comprendre la sagesse de Dieu dans sa mort et sa résurrection. Est-ce que vous discernez la sagesse de Dieu dans la mort et dans la résurrection de son serviteur? Est-ce que vous comprenez que Dieu n'aurait pas pu nous purifier si son Fils n'avait pas accepté de porter nos péchés? Cela aurait été impossible. Est-ce que vous comprenez que la sagesse, que la croix sur laquelle Jésus a été crucifié à notre place, est en fait la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque place sa confiance en lui? Pour certains, c'est une folie. Est-ce une sagesse pour vous? Si vous avez du mal à comprendre cela, ce qui est légitime, hein, pourquoi ne pas lire les passages du Nouveau Testament qui expriment clairement ce que nous sommes en train de dire, qui révèlent la sagesse de Dieu au travers de la mort de Jésus? Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31, où Paul dit explicitement que la mort et la résurrection de Jésus constitue la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ou pourquoi ne pas lire un bon livre cette année? La croix de Jésus-Christ, The Cross of Christ, 12 € d'occasion sur Amazon.fr. Un livre épais, conséquent, mais qui vaut vraiment la peine d'être lu. Je suppose que Thierry sera d'accord avec moi, ainsi que Alex et Francis et tous ceux qui ont peut-être lu ce livre. Sinon, ben, je vous encourage à lire. Autrement, si vous voyez et comprenez la sagesse de Dieu au travers de la mort et de la résurrection de son serviteur, si vous avez placé votre confiance en lui pour le pardon de vos péchés, mais avez-vous conscience que vous n'avez besoin de rien ni de personne d'autre pour être accepté dans la présence de Dieu, là, tout de suite, maintenant? Si vous mourrez ce soir, vous avez l'assurance d'être accepté dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez rien faire, absolument rien, pour être plus aimé de Dieu que vous l'êtes déjà. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la culpabilité. Objectif devant Dieu. Indépendamment de ce que vous avez fait, quelle que soit la gravité de votre crime, vous n'avez plus besoin de vivre dans la culpabilité. Objectif devant Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus s'en est chargé. Il a porté nos péchés, la dette judiciaire de nos péchés, les conséquences juridiques de notre infraction de la loi de Dieu. C'est lui qui en a subi les conséquences à notre place. Vous n'avez plus besoin de vivre dans la culpabilité. C'est fini. À un moine désespéré à cause de son péché, voici ce que Martin Luther, les jeunes connaissent bien Martin Luther, puisqu'on a regardé le film Luther ensemble il y a quelques mois. Voici ce que Martin Luther a dit à un moine désespéré à cause de son péché. Apprends à connaître Christ et lui crucifié. Apprends à lui chanter et à lui dire: Seigneur Jésus, tu es ma justice. Je suis ton péché. tu as pris sur toi ce qui était à moi. Et tu as pourtant placé sur moi ce qui était à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas, afin que je devienne ce que je n'étais pas. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment, c'est vrai, fermer notre bouche, dans notre cœur en tout cas, pour reconnaître humblement que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur n'est autre que le serviteur que tu as envoyé, un serviteur qui a été élevé. Élevé parce qu'il a été défiguré. Défiguré parce qu'il a été sacrifié. Parce qu'il a porté nos péchés. Et que nous n'avons plus besoin de vivre dans la culpabilité. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, donc à fermer notre bouche devant toi. Mais aussi à abonder en actions de grâce, pour te remercier de ce que tu as fait pour nous, et à voir et comprendre tous les jours de notre vie, à discerner la sagesse du Père au travers de la mort et de la résurrection du Fils, le serviteur mystère qui a porté nos péchés. À lui toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen.